EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach aujourd'hui. Vous savez que depuis le début de cette semaine, nous parlons de la souffrance. C'est pas pour souffrir, mais nous devons parler de la souffrance parce qu'elle est là. Elle est là pourquoi? Pourquoi Dieu l'enlève pas juste comme ça? Ça veut dire qu'il y a un but. Hier, nous avons traité la souffrance d'un enseignant, d'un professeur engagé par Dieu pour nous enseigner une matière difficile mais obligatoire. On passe pas d'école sans que la souffrance fasse son œuvre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne ensemble comment ça coexiste ça. Dieu d'amour, rempli d'amour et de bonté, et la souffrance, ces deux réalités sont même des fois la cause pour laquelle certaines personnes se sentent réticentes vis-à-vis de la foi chrétienne. Ou même que certains chrétiens, quand ils passent par des épreuves, abandonnent la foi. Parce qu'ils ont du mal à faire coexister dans une même réalité un Dieu plein d'amour, comme nous le décrivons, avec ces souffrances par lesquelles passe non seulement l'humanité entière, mais par lesquels passent des gens qui ont confiance en lui. Alors, je veux qu'on découvre ensemble comment ces deux choses fonctionnent. Et vous allez être très étonnés de voir que, de fond, on ne regarde pas de bon angle. Mon but à moi ne sera pas de donner une réponse apologétique, tentant de répondre au monde entier sur cette question de coexister souffrance et Dieu. Non, je ne vais pas prendre cette approche. Je parle plutôt à ceux qui ont la foi et qui connaissent le Seigneur Jésus, dans le but de les encourager à savoir comment passer dans ces étapes appelées souffrance. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Alors, un Dieu d'amour peut-il permettre la souffrance? Vous devez d'abord savoir la première de choses, c'est qu'il y a ces deux réalités, amour et liberté. Deux concepts importants à mettre ensemble. Amour et liberté. L'amour sous-entend une relation. Et dans la relation, il y a de la liberté. Il y a de la singularité. Si vous deux, vous n'avez pas des volontés personnelles, cette relation n'a pas de sens. Ce n'est même pas une relation parce qu'il s'agit en fin de compte d'une même entité. Mais la raison pour laquelle il y a relation, c'est parce qu'il y a deux entités différentes et deux volontés différentes qui certainement vont finir par s'harmoniser. Mais si on est dans une relation, il doit y avoir la liberté. C'est d'ailleurs cette expression de liberté qui, malheureusement, est devenue l'occasion du péché. Si l'homme n'était pas autant libre dans sa relation avec Dieu, il ne pouvait même pas choisir le péché. Dieu a rendu l'homme libre pour lui donner tous les attributs, toute la nature de son Père. S'il doit être à son image, il doit être comme Dieu. Et dans cette liberté, l'homme n'a pas toujours fait le bon choix, il a fait le mauvais, souvent, celui du péché. Il y a à la fois amour et liberté. Et ces deux choses cohabitent. Dieu nous aime et il est en relation avec nous et il nous a donné la liberté. Et c'est souvent l'usage de cette liberté en libertinage qui devient la cause. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il doit nous forcer à faire le bien. Non, Dieu nous aimant veut recevoir de notre part ce retour d'amour librement, sans nous forcer à cela. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu parle au peuple d'Israël. Deutéronome, c'est le livre où la loi est répétée, les faits qui ont eu lieu en exode, pendant l'exode et à l'arrivée sur la terre promise. Dieu en reparle. Il dit, je t'en parle, ciel et terre sont témoins. Devant toi, j'ai mis deux choses. C'est ce qui te permet d'être comme moi, libre. Donc, il y a le malheur, il y a le bonheur, ou disons, il y a la malédiction et la bénédiction. Non seulement qu'il a mis deux choses en nous disant, je vous aiderai pas, choisissez. Il a même indiqué le bon choix. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. toi et ta postérité. Il t'impose pas, il te conseille. Que voudrais-tu de plus dans une relation? Si c'est tenir la main de quelqu'un, le forcer à mettre le repas dans la bouche, ce n'est pas une relation, c'est toxique, c'est manipulateur. Et Dieu n'est pas comme ça. Justement, vous devez voir dans la liberté que l'humanité a l'expression de l'amour de Dieu. Vous ne devez jamais croire que lorsque l'homme a fait des choix qui l'amènent à souffrir, ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu d'amour et que s'il a des souffrances dans l'humanité, c'est que Dieu n'a pas aimé l'homme. Non, Dieu a justement aimé l'homme qui lui a donné le choix en lui donnant la recommandation. Il lui a donné non seulement le choix de ce qu'il doit faire, il lui a même donné aussi la recommandation, il a montré les options, il a même pointé, c'est là qu'il faut tiquer. C'est comme si tu passais un examen et les profs te disaient quelle était la bonne réponse. Mais malgré cela, tu uses de ta liberté de prendre l'autre réponse. Est-ce que ça veut dire que le prof ne t'aime pas? Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, continue la Bible, sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, ici, Paul montre l'origine. Il explique le process. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pas par Dieu. Le choix d'Adam et Ève, leur choix là-bas dès les débuts, ont laissé couler quelque chose. Et Dieu, par Christ, est venu aussi sauver l'humanité. Sachez-le bien que la liberté que l'homme a eue dans l'amour et dans la relation qu'il a avec Dieu, c'est la mauvaise façon d'utiliser cette liberté qui nous a mené à la souffrance. À la base, Dieu n'a pas mis la souffrance pour nous là en disant « vous allez souffrir ». Non. Elle est devenue une chose obligatoire parce que nous avons fait des choix dès le début de l'humanité. Et pas seulement les choix d'Adam et d'Ève et qui ont donné un héritage à l'humanité, mais les choix individuels que nous opérons. Deuxième vérité, si on a compris la tension ou l'équilibre qu'il faut établir, comment il faut faire cohabiter amour et liberté, relation que Dieu a avec nous et la liberté qu'il nous donne de choisir ou pas comme l'expression de notre réponse dans cette relation, si on a compris comment faire cohabiter les deux, deuxième chose, c'est que nous sommes dans un monde fracturé, mais encadré. OK. Ces deux termes sont intentionnels. Le monde dans lequel nous sommes est fracturé. C'est-à-dire, il a connu des coups à cause du péché de l'homme. Le monde n'est plus ce qu'il devait être. Mais il n'est pas abandonné à lui-même. Un Dieu encadre ce monde. C'est comme un cadre, photo, voilà, avec vitre, et pouf, ça se fracture. Réflexe premier, on essaie de tenir le cadre dans tous les sens. On sait que si on lâche, les verres vont s'éclater, même le sol, brrr. Mais on sait que si on les tient fort comme ça, on peut les déplacer. Le monde est fracturé par le mal, les conséquences de choix de l'homme. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne s'est pas dit, comme on dit chez nous bien en Afrique, c'est gâté déjà. Non, il s'est dit, on peut en faire quelque chose. Il n'y a que moi qui l'ai créé, qui peut le fixer. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de ne nous avoir pas abandonné à nous-mêmes. Tu savais qu'on sait se chercher des problèmes, mais on ne sait pas les fixer. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous avez entendu ça? Jésus ne nie pas la souffrance. Il dit, écoutez, l'homme a beaucoup changé. Et quand vous allez tenter d'être comme moi et lui montrer la véritable nature d'un enfant de Dieu, ils vont pas aimer. Ils vont vous faire souffrir. Mais écoutez, je vais être avec vous. Prenez courage. Je suis venu et j'ai fait quelque chose pour contrôler la situation. J'ai vaincu le monde. Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, Dieu ne nous a pas laissé nous-mêmes nous battre dans notre souffrance. Son amour est là pour encadrer un monde brisé. Ah, le monde n'est pas devenu à 100% bien. Non, il n'est pas complètement réparé. Non, le monde va complètement disparaître. Mais il a offert une opportunité de vivre dans le monde sans être du monde. Il est vaincu, il est venu, il a vu ce qu'il y avait dans le monde, il a vaincu le monde pour que quiconque croit en lui ne subisse plus dans le monde les effets du monde. Romains chapitre 8, versets 20 à 21. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Ouh. Il y a une liberté et il y a une gloire qui est réservée à une catégorie appelée des enfants de Dieu. Et le monde entier, quand on parle ici du monde, ici on parle de la création, c'est-à-dire la nature. Même la nature elle-même, animal, faune, flore, espère pouvoir entrer dans cette autre gloire. C'est pourquoi Dieu promet en fin de compte un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il promet de cohabiter avec ses créatures, mais eux aussi rachetés, pas dans le sens du salut, mais subissant la transformation de la liberté du monde qui attend avec un ardent désir cette manifestation des fils de Dieu. Mes amis, le monde est fracturé. Il n'est pas seulement fracturé au niveau de l'homme parce que l'humain a péché. Non, les animaux, la nature, la faune, la flore, tous subissent ces choix-là. Le monde, je parle pas ici du monde dans le sens de un système de vie dans lequel se trouve le péché, je parle de la création, de la terre, du cosmos. Tout ce qu'il y a sur cette terre subit ses choix. Ce monde est fracturé. Mais béni soit le Créateur. Il encadre ce monde vers des jours meilleurs. Au milieu de nos déboires, il a trouvé un moyen de frayer un chemin. Il est où? Le chemin est venu lui-même et il a osé le dire publiquement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans ce monde plein de souffrances, l'amour de Dieu est en plein dedans. Ce monde que vous êtes en train de voir en disant « Ah, mais comment Dieu, il est où ?» On est en train d'exploser des petits-enfants qui sont même innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est justement ça le mal de nos choix. Quand tu fais un choix, le choix ne revient pas que sur toi. Il y a des conséquences de ton choix. Cet enfant que vous voyez souffrir, il le souffre d'un choix d'un autre dirigeant, d'un autre être humain. Alors pourquoi Dieu ne court-circuiterait pas le choix de chacun? Alors, personne ne serait responsable de ses choix alors. Les choix des uns sont subis par les autres. Mais au milieu de ce choix, il y a un chemin dans ces chaos. D'être ici, mais n'est pas être d'ici. C'est possible. C'est Jésus de Nazareth. Troisièmement, la discipline aimante. La discipline aimante. Il y a quelque chose dans la Bible qui montre que Dieu, dans son amour, aime nous discipliner. Dieu éduque ses enfants pour le bien, afin de partager sa sainteté. Sa discipline corrige, elle ne détruit pas. Quand Dieu nous discipline, il ne veut pas nous détruire. Le mot grec que j'ai choisi là-bas, le mot « paideia », signifie discipline, pardonnez-moi, éducative. Dieu nous discipline pour nous éduquer. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Châtie celui qu'il aime. L'idée là, c'est les seigneurs, c'est le terme grec que je viens d'utiliser ici, signifie les seigneurs fait une discipline éducative. Il te fait subir un poids d'une chose qui te fait sentir une douleur, mais c'est un conditionnement en vue de t'amener à une réalisation. Vous voyez? En matière d'éducation, il y a plusieurs écoles là-dessus. Certains disent, frappez vos enfants, d'autres disent, frappez pas vos enfants. Mais dans les deux cas, quel que soit, je vais pas entrer dans ce débat maintenant là, mais dans les deux cas, tous les parents s'entendent sur une chose. Il faut amener l'enfant à la réalisation de son erreur. De manière contraignante, de manière conversationnelle, mais si on veut un changement, l'enfant doit en arriver au point de réaliser que ce que je fais est un mal. Et Dieu nous amène dans cette réalisation aussi. En tant que père, voici la méthode de Dieu. Avant que psychologie n'existe, voici la méthode du Créateur qui connaît de quoi il a fait l'homme et de quoi il souffre depuis le jour où il a consommé le péché. Le Créateur s'est dit, il faut que j'adopte une discipline éducative. C'est-à-dire, de fois, il doit être conditionné sous une forme de pression qui le fait ressentir une sorte de souffrance, mais ça lui donnera une meilleure réalisation de fait pour qu'il s'éloigne de ce mal définitivement. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Wow! Dieu châtie la personne qu'il aime. Comment je peux imaginer que châtier rime avec aimer? Oh. Je sais pas pour vous, moi je suis père de 4 enfants. J'aime à croire que ce sont des enfants du pasteur. Mais des fois j'oublie que ce sont juste des êtres humains qui sont sujets aussi à des tentations. Et vous savez, les mal, la douleur que je ressens quand je les attrape faire quelque chose ou qu'ils me mentent sur un sujet. Tu vois, les enfants, ils sont très tentés par des sucreries. Alors, il s'est dit, si je demande à papa, il va dire non dans tous les cas. Alors, il s'invente une chose. Il imagine comment prendre ça et me conditionner à dire oui. Et tu vois, il tente de manipuler. Les enfants, c'est comme ça, malheureusement. Je vois ça en eux. Et quand je vois qu'il y a de l'intention et de la légèreté dans l'art de la duplicité, il faut que je lui empêche de continuer de réfléchir comme ça. Il doit se rendre compte que c'est un mal avec des conséquences énormes. S'il applique ça demain, il va faire souffrir pas seulement lui, il va nous faire souffrir tous. Quand je dis tous, ce n'est pas juste sa mère et moi, c'est ses frères, ses sœurs, mais c'est aussi tout le monde. L'humanité tout entière va subir ça. Quand quelqu'un a appris l'art de la duplicité, de mentir, demain, il va hacker et tout l'aéroport va être paralysé et les avions ne vont pas voler. Dieu n'a-t-il pas vu que j'avais un avion à prendre, que le médecin qui devait opérer mon enfant ne devait pas en cet avion. Maintenant, il a permis que les gens puissent hacker. Ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. Ça a commencé dès le moment où des hommes ont fait des choix. Et quand Dieu amène sa discipline, c'est par amour pour nous redresser. C'est par pédagogie. La souffrance est une pédagogie divine. C'est pourquoi j'en parlais dès le premier jour. Proverbes chapitre 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Voyez, l'homme d'Hébreu répète plus ou moins la même chose qu'il y a ici dans les Proverbes. Il dit, ne méprise pas la correction de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te corrige, ne méprise pas ça. Ne te dis pas, pourquoi je souffre encore vraiment Dieu. Tu dois aimer. Quand Dieu s'arrête un moment et te conditionne et t'empêche de passer avec tes bêtises, il fait que ça bille, il fait qu'on t'arrête, c'est pour ton bien. Si tu as des signaux que ce mal était un mal, c'est pas parce que Dieu ne veut pas te laisser. L'amour de Dieu, ce serait de me laisser me camoufler avec ce mal et on va en parler ensemble à la maison. Non. T'es dénoncé, fait partie de l'amour de Dieu pour dire, il ne doit plus faire ça. Sachez-le bien que certaines souffrances par lesquelles nous passons, je ne suis pas en train de dire, on les mérite. Je suis plutôt en train de dire que des fois, c'est pédagogique. Parce que Dieu utilise de la discipline aimante. Dans sa discipline se trouve de l'amour. Dans ces conditions difficiles, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? C'est pourquoi quand vous passez par un moment difficile, la première de choses à dire, avec humilité et sincérité, c'est « Dieu, que veux-tu m'apprendre ? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Pas comme quelqu'un qui veut juste se débarrasser de son mal, il dit, Seigneur, dis ce que tu veux, comme ça j'arrête de souffrir. Non, comme quelqu'un qui est prêt à apprendre. Si vous apprenez ça et que ça entre en vous, sachez-le bien, Dieu ne va pas se donner un plaisir de vous faire passer par cette même souffrance s'il n'y a pas de leçon à prendre. Du reste, toutes nos leçons, nous les apprenons pas par la souffrance toujours. Alors, quatrièmement, Dieu retourne le mal en bien. Souvenez-vous, aujourd'hui, je suis en train de parler ensemble avec vous sur le fait que Dieu, ce Dieu d'amour, permet de la souffrance. Comment son amour cohabite-t-il avec la souffrance? Alors pour ça, je commençais par nous dire qu'il y a deux concepts qu'il faut associer très clairement. C'est l'amour de Dieu et la liberté qu'il nous accorde. On est à la fois en relation avec Dieu, et dans cette relation, on a la liberté de répondre comme bon nous semble, même si Dieu nous donne l'indication de la meilleure réponse. On finit toujours par choisir. J'ai dit qu'il est important de comprendre que le monde dans lequel nous sommes est fracturé à cause du péché de l'homme, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il continue à nous encadrer et à nous guider. Et j'ai aussi dit que Dieu exerce de la discipline aimante, dont vous trouverez dans son amour une dimension qui vous semble être dure. Et alors là, je suis en train de dire quatrièmement que Dieu, quand il y riposte face au mal, il retourne le mal en bien. Quand le mal a été fait, Dieu prend ce mal, cette difficulté, il peut la transformer et en finir avec le bien. Genèse chapitre 50, verset 20. On entend une belle phrase ici. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est Joseph qui parle à ses frères et qui finalement révèle qui il est. Ce n'est pas un Égyptien, c'est Joseph, leur frère qu'ils avaient abandonné dans le puits et qu'ils avaient vendu. Il leur dit, vous avez médité de me faire du mal, vous l'avez conçu, vous l'avez ruminé, vous l'avez même exécuté. Mais ce mal-là, Dieu l'a tourné, transformé en bien. Vous pouvez imaginer Joseph dans ce puits, en train d'être vendu par ses frères. Vous savez comment? Combien de temps vous allez passer dans votre tête à repasser le scénario de la trahison familiale? Ce ne sont pas des amis qui ne me connaissent pas, c'est mon sang. Ils me vendent à prix d'argent. Vous savez pas combien de temps vous êtes là à vous dire qu'est-ce qu'ils vont dire à papa. Il n'y a même pas de WhatsApp, ni d'SMS, ni d'appel. Je suis parti en esclave. Ouh, je sais pas si vous savez combien ça fait mal. Mais là, vous avez quelqu'un qui a compris. Qui, au bout de sa douleur, a une vue d'ensemble de la situation. Il a l'occasion de se venger, il regarde ses frères et dit, non, pas du tout. J'ai finalement compris. Je prie Dieu que tu comprennes finalement. Je demande à Dieu qu'il te donne de la hauteur pour que tu regardes ces choses qui te faisaient pleurer à un angle où tu es capable de dire, vous avez médité de me faire du mal. Mais le Seigneur a transformé ce mal en bien. Je prie Dieu que vous ressentiez dans le coup qu'on vous fait subir et dans les pierres qu'on vous lance un plan divin qui vous fortifie. Je prie Dieu que vous preniez du recul et que vous regardiez au-delà de l'angle mort selon lequel vous vous positionniez et vous puissiez voir le plan plus global que Dieu est au contrôle. Vous aviez médité de me faire du mal. Que ce soit un membre de famille, un collaborateur, restez un moment, dites-vous, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je prie que vous puissiez voir le bien qu'il y a derrière votre souffrance. Vous puissiez commencer à voir le plan s'est dessiné. Vous puissiez commencer à voir qu'il fallait que cela arrive. Romains 8, 28 dit, nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés, c'est leur son dessein. Par quelque chose, par certaines choses, toute chose. Dieu sait comment ramener tes douleurs à la finalité de ton sourire. Oh, gloire à son nom. Dieu sait comment faire en sorte que ce qui t'a fait pleurer te fasse rire. Avez-vous déjà pleuré des douleurs et continué à pleurer de joie? À peine que vous étiez en train de pleurer de douleur et vous rendez compte que tout a changé. Vous n'avez même pas eu l'occasion de transformer ça en autre chose. Vous êtes juste profondément entré dans vos larmes, mais de joie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je crois que finalement, dans cette école de Dieu, mon professeur préféré, c'est le prof souffrance. Mais je déteste son cours. J'aime plutôt ce qu'on devient après. Pendant le cours, c'est dur. Mais quand on est passé par là, on devient toujours meilleur, comme de l'or qui est éprouvé par le feu. Et enfin, la dernière chose que je veux partager avec vous, au sujet de cette façon de faire cohabiter l'amour de Dieu, un Dieu plein d'amour, mais comment il permet que je passe par là? La cinquième des choses que j'aimerais dire, c'est que Dieu souffre avec nous et nous console par l'Esprit. Vous connaissez le mot parakletos, n'est-ce pas? On a traduit ça en français par paraclé. C'est ce qu'on dit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est le paraclet. Ça signifie le consolateur, celui qui est à côté de nous, qui intercède pour nous, qui comprend notre situation. Frère, Dieu ne nous laisse pas souffrir et lui être en dehors. Il le comprend, il le sait. Dieu ne sait pas qu'on souffre parce qu'il l'a vu de l'extérieur, non. Dieu sait qu'on souffre parce que la signature de la souffrance, quand elle passe à l'intérieur de nous, Dieu la connaît, la ressent. Pasteur, tu veux dire que quand j'ai mes douleurs, Dieu ressent cette douleur? Absolument. Il ressent ta joie, il ressent aussi ta douleur. Tu ne souffres pas seul. Jésus qui habite en toi ne va pas se la couler douce quand c'est l'heure de souffrance. C'est dit, bah, c'est la souffrance que tu souffres seul, hein. Pleure seul. Non. Christ qui vit avec toi, en toi, est avec toi, même quand tu souffres. J'aime comment il partage la douleur de cette famille. Marthe et Marie ont perdu leur frère. Jésus est là, il voit comment tout le monde pleure. On voit dans le texte à la fois qu'il s'identifie à leur douleur, même si on voit aussi qu'il y a une dimension messianique où il pleure aussi à cause de l'ignorance du peuple, du fait qu'on est obligé d'en arriver là pour qu'ils comprennent certaines vérités. Alors Jean chapitre 11, verset 35, le verset le plus court, Jésus pleura. Jésus s'identifie à ses douleurs et pleure. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous voyez ça? Dans nos afflictions, Dieu nous console pour faire de nous des instruments de consolation. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'être consolé, tu ne seras pas bon en matière de consoler les autres. Puisque la souffrance est obligatoire et elle fait partie de la pédagogie, elle fait partie du moyen de sauver l'humanité, c'est lié à l'homme et à ses choix. Dieu nous y fait passer en étant avec nous pour nous apprendre comment en sortir. Tu n'es pas seul. Je sais que tu as envie de me dire, pasteur, tu ne sais pas donc par quoi je passe. J'ai à peine la capacité d'élever la tête et je souffre en allant au bureau où que j'aille. Les gens me regardent d'une manière, j'ai envie de me pendre. S'il te plaît, ne te pends pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu n'es pas seul. Moi, je connais pas du tout ce qui se passe. J'ai ri au moment où tu pleures. J'ai fait des blagues au moment où toi tu étais sérieux. Mais il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe vraiment. Et tu n'es pas seul. Laisse-moi prier avec toi. Mon Dieu, je prie pour quelqu'un qui passe par des moments durs, qu'il ne sait pas dire à haute voix à tout le monde, ou quelqu'un qui est à côté de quelqu'un d'autre qui souffre, et il ne sait même pas comment le consoler. Oh, Paracletos, toi notre consolateur, console ce cœur qui souffre, et mets dans nos bouches les paroles qu'il faut pour apporter consolation autour de nous, afin que les hommes arrivent à concilier, que cet amour a une discipline aimante, que la souffrance de l'humanité ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut pédagogiquement utiliser ce par quoi nous passons pour nous enseigner les meilleures leçons, qu'on arrive à concilier ces deux choses, amour et liberté, et savoir qu'il a mis devant nous bonheur, malheur, malédiction et bénédiction, mais qu'il a fait une recommandation claire. Et que même quand on a choisi des mauvaises choses qui ont détruit l'humanité, Il est là pour pouvoir remettre en place les pièces que nous avons écartées. Seigneur, merci pour ta consolation. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et continue à rester avec vous. Avec nous, j'allais dire. Continue à rester avec nous et nous allons le voir demain. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.